compagnie des revues, aujourd'hui en compagnie de L'Express. Et c'est avec vous, Jérôme Dupuis, grand reporter au service livre de cet hebdomadaire. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous venez nous parler d'Hugo Pratt, à qui une exposition est consacrée au musée des Confluences de Lyon à partir du 7 avril prochain. On est là dans un univers qui paraît assez éloigné de celui de Flaubert, non ?
Oui, à première vue, encore qu'on vient de parler de Salammbô. Et si on y réfléchit bien, dans Salammbô, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'on va retrouver dans les bandes dessinées d'Hugo Pratt 20 ou 23 siècles plus tard. Des guerres africaines entre grands empires, une femme mystérieuse, des mercenaires, des personnages un peu ambigus qui passent d'un camp à l'autre. Et puis le désert qui fascinait Flaubert dans le dictionnaire de Gisèle Séjingère. Il y a d'ailleurs une entrée très longue et très intéressante sur le mot « désert ».
Ah, vous avez fait vos devoirs.
Oui, dont il disait d'ailleurs dans son dictionnaire des idées reçues qu'il produisait des dates. Mmh. Donc effectivement, il y a un certain nombre de thèmes qui pourraient être proches d'Hugo Pratt, même s'il faut bien le dire, son inspiration, Hugo Pratt, il l'a surtout puisé auprès des grands romanciers d'aventure anglo-saxons que tous les jeunes enfants comme lui lisaient avant-guerre. C'est-à-dire en premier lieu Stevenson, évidemment, L'île au trésor l'a marqué à tout jamais, Le sujet des îles, La recherche des trésors, Les parchemins, Les îles du Sud, dans lesquelles Corto Maltese va beaucoup voguer. Et puis aussi beaucoup, on le sait peut-être un peu moins, mais James Oliver Curwood ou Fenimore Cooper. Hugo Pratt était un grand spécialiste des guerres indiennes du XVIIIe siècle. Vraiment un grand spécialiste. Il avait une immense bibliothèque consacrée à ce sujet. Il allait même faire des tournées de conférences au Canada sur ces sujets.
Donc il s'intéressait évidemment à la littérature, mais aussi à la poésie.
Oui, c'est un peu une des surprises qu'ont dû avoir les jeunes lecteurs de PIF, l'hebdomadaire proche du Parti communiste français dans lequel Corto Maltese était publié au début des années 70, puisque une des aventures de Corto Maltese s'ouvre sur une planche entière par des vers du bateau ivre de Rimbaud. C'est un officier britannique qui les lit, et d'ailleurs il s'attire une petite réplique un peu ironique de Corto Maltese qui lui dit « Mais moi qui croyais que les officiers britanniques n'aimaient que Kipling », donc là on retrouve un peu toute la dimension un peu ironique de Pratt. Il adorait Rimbaud, évidemment, puisqu'il a lui-même vécu, Hugo Pratt, sa jeunesse en Abyssinie. Il a même dit qu'il avait rencontré un prêtre qui aurait connu Rimbaud dans ses années éthiopiennes. On peut en douter, mais bon, après tout, c'est peut-être possible. Et puis, il cite aussi beaucoup de poètes anglo-saxons, là encore, Coleridge, Yeats, et Kipling, qu'il a d'ailleurs illustré.
Est-ce que lui-même fréquentait beaucoup d'écrivains ?
Alors, il avait tendance un peu à embellir la vérité, Hugo Pratt. Il a dit qu'il avait rencontré Henri de Montfred avant-guerre, sur la mer Rouge. Il a dit qu'il était tombé par hasard un jour sur John Dos Passos, en plein milieu de la jungle brésilienne. Bon, ses biographes en doutent un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté un peu borgésien de Pratt, qui a beaucoup vécu en Argentine, c'est qu'il aime mêler les personnages fictifs et les personnages réels. Et donc son héros romantique, Corto Maltese, va croiser Jack London en 1904-1905 sur le front de la guerre russo-japonaise. Ils vont dialoguer, bon, on voit bien qu'ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes idées. Jack London est sans doute plus socialiste, plus idéologue que Corto Maltese, qui est une sorte un peu de marin anarchiste. Et puis il va aussi faire une autre rencontre, Pratt étant vénitien, dans un autre album, Corto Maltese rencontre Gabriele D'Annunzio, l'homme de lettres italien, qui a tout pour plaire à Pratt, avec ce côté dandy, ces chapeaux qui graphiquement, évidemment, lui permettent de s'exprimer. Et puis c'est là encore un personnage ambigu, à la fois poète, mais un peu mussolinien. Donc effectivement, c'est un vrai personnage prattien.
Alors voilà pour cette expo Hugo Pratt. Un petit mot peut-être sur un autre sujet. Je crois que la rédaction de L'Express a été très divisée sur le dernier roman de Le Clésio, Bitna sous le ciel de Séoul. Pour quelle raison ?
En fait, les avis étaient tellement divergents au sein de notre rédaction qu'on a décidé de, peut-être lâchement, mais de faire un pour-contre, comme on fait dans ces cas-là, pour que d'un côté, Marianne Payot, qui a beaucoup aimé ce roman, qui donc se passe à Séoul et qui met en scène une jeune paysanne pauvre qui lit des contes à une vieille dame qui est en train de mourir, a pu exprimer toute la beauté qu'elle avait trouvée dans ce texte. Et puis effectivement, pour ma part, j'étais un peu moins enthousiaste. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être un peu tendance à trop attendre d'un prix Nobel de littérature et à toujours vouloir le juger un peu à l'aune de ce prix très prestigieux. Mais il est vrai qu'il y a un côté un peu misérabiliste, selon moi, dans ce roman, avec des paysannes méritantes, des vieux concierges, poètes, etc. Il y a un petit côté, j'ai trouvé, alors c'est une autre prix Nobel aussi, mais il y a un petit côté Pearl Buck, cette romancière que nos grands-mères adoraient. Et puis, il y a une série de contes qui sont intercalés et qui sont un petit peu mièvres. On a un peu l'impression de regarder des esquisses, des dessins japonais ou chinois un peu niais, à vrai dire.
Les auditeurs auront sans doute envie de lire ce livre qui manque de faire exploser la rédaction de L'Express Livre. Merci beaucoup, Jérôme Dupuis. Vous êtes donc le premier des journalistes de L'Express à venir nous voir. Il y en aura d'autres et en attendant, je donne rendez-vous aux auditeurs dans les pages culture de votre magazine actuellement en kiosque. À bientôt.